Huitième jour avec Claire Bressolet. Huitième jour avec Claire Bressolet.
Remontons un peu dans le 19e siècle. Il va y avoir une grande lecture romantique de la guerre. Cette lecture, elle est faite par Victor Hugo dans Les Misérables. Alors, qu'est-ce que Les Misérables ? C'est une immense fresque. Il faut bien comprendre, ce n'est pas un roman comme les autres. C'est une fresque qui va mêler des moments de l'histoire interprétés par Hugo, un changement de société, donc Paris est en train de changer. C'est un roman qui est porté en gestation, on va dire, pendant 30 ans, qui a pour titre au début La misère, avec un dessin de Hugo. Il faut savoir que Hugo, s'il n'avait pas été écrivain, c'est-à-dire dramaturge, poète, romancier et pamphlétaire, aurait été connu comme peintre. 4000 encres sur des bouts de cartes postales, sur des dessins, etc. C'est splendide, vraiment. Donc on a une puissance créatrice hors du commun. Donc Hugo fait lui-même une sorte de dessin, un frontispice. Et La misère est une femme qui évoque un peu la liberté guidant le peuple de Delacroix. C'est-à-dire une femme avec un tissu, un sein nu qui apparaît. Elle a les cheveux courts, miséria. Elle évoque, on va dire, Fantine, qui va se couper les cheveux, s'édenter pour payer les Thénardier qui demandent de l'argent pour Cosette. Mais la miséria, c'est trop abstrait. Hugo va choisir Les Misérables, c'est-à-dire donner quelque chose de concret. Et Les Misérables, ça renvoie à ceux qui sont dans la misère financière, matérielle, mais ça renvoie à la condition humaine qui est une misère, parce qu'elle est misérable du fait d'être pécheresse. Alors je ne fais pas de Hugo un chrétien qui va pratiquer, non, il faisait tourner les tables, mais je fais de Hugo quelqu'un de cultivé, qui sait très bien que le christianisme a sa place dans l'histoire et que c'est important. Alors regardons un peu comment Hugo lit Waterloo. Waterloo, c'est la victoire de Wellington contre Napoléon. Qui a gagné la guerre ? Ni Napoléon, ni Wellington. C'est le destin. Il fallait que cela fût. Et c'est la pluie qui a fait qu'au lieu de commencer à 8 heures du matin, Napoléon a commencé à 10 heures. Eût-il commencé à 8 heures, il aurait probablement gagné, d'après Victor Hugo. Il n'y aurait pas eu la jonction de l'armée de Prusse avec celle de Wellington anglaise. Il n'y aurait pas eu le temps. Il y aurait eu déboutement successif des armées, selon Hugo, et Napoléon aurait gagné. Alors Napoléon va incarner quoi ? Le génie militaire, mais non seulement le génie, le souffle romantique nouveau opposé au classicisme. On reprend ici, on voit très bien la distinction pascalienne de l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Alors, écoutons le verbe hugolien qui quand même vaut son pesant d'or, c'est un passage pelu dans les éditions, on va dire, édulcorées des Misérables, où on ne retient que l'histoire du premier livre avec la nuit de Noël, Cosette qui va chercher de l'eau dans la forêt, et puis Jean Valjean qui lui prend le seau, les Thénardier, etc. On oublie qu'il y a toute cette fresque historique, cette épaisseur de l'histoire relue par Victor Hugo de manière romantique. Waterloo, du reste, est la plus étrange rencontre qui soit dans l'histoire. Napoléon et Wellington. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des contraires. Jamais Dieu, qui se plaît aux antithèses, n'a fait un plus saisissant contraste et une confrontation plus extraordinaire. D'un côté, la précision, la prévision, la géométrie, la prudence, la retraite assurée, les réserves ménagées, un sang-froid opiniâtre, une méthode imperturbable, la stratégie qui profite du terrain, la tactique qui équilibre les bataillons, le carnage tiré au cordeau, la guerre réglée montre en main, rien laissé volontairement au hasard, le vieux courage classique, la correction absolue. De l'autre, l'intuition, la divination, l'étrangeté militaire, l'instinct surhumain, le coup d'œil flamboyant, on ne sait quoi qui regarde comme l'aigle et qui frappe comme la foudre. Un art prodigieux dans une impétuosité dédaigneuse. Tous les mystères d'une âme profonde. L'association avec le destin, le fleuve, la plaine, la forêt, la colline, sommée et en quelque sorte forcée d'obéir. le despote allant jusqu'à tyranniser le champ de bataille, la foi à l'étoile mêlée à la science stratégique, la grandissant, mais la troublant. Wellington était le barème de la guerre. Napoléon en était le Michel-Ange. Et cette fois, le génie fut vaincu par le calcul. Des deux côtés, on attendait quelqu'un. Ce fut le calculateur exact qui réussit. Napoléon attendait Grouchy, il ne vint pas. Wellington attendait Blücher, il vint. Wellington, c'est la guerre classique qui prend sa revanche. Bonaparte, à son aurore, l'avait rencontré en Italie et superbement battu. La vieille chouette avait fui devant le jeune vautour. L'ancienne tactique avait été non seulement foudroyée, mais scandalisée. Qu'était-ce que ce Corse de 26 ans? Que signifiait cet ignorant, splendide, qui, ayant tout contre lui, rien pour lui, sans vivres, sans munitions, sans canons, sans souliers, presque sans armée, avec une poignée d'hommes contre des masses, se ruait sur l'Europe coalisée et gagnait absurdement des victoires dans l'impossible. Vous relirez Les Misérables, sinon l'émission ne va pas pouvoir s'arrêter. Alors, que signifie Victor Hugo ici? Il signifie qu'avec la défaite de Waterloo, c'est la mainmise de l'esprit de géométrie sur toute l'Europe. À travers le mot classique, vous avez entendu l'allitération hantée, le verbe hugolien, la longueur des phrases, c'est splendide comment un mot en appelle un autre et comment on a un véritable flot verbal. Eh bien ici, la victoire de Wellington, qui lui aussi devient une entité, ce n'est pas le Wellington historique, c'est simplement un type, vient montrer qu'on entre dans l'ère du calcul, de la rentabilité, de la révolution industrielle, de la tactique, de la méthode. La méthode ne peut être qu'une mécanique. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle puisse se répéter. Elle puisse proposer quelque chose qui revient. Tandis que l'inattendu, sans chaussures, du pied nu, sans savate, du génie qui fait du paysage une sculpture, un nouveau Michel-Ange qui asservit la matière, les éléments à une technique, une technique qu'il va trouver sur le moment, ça, c'est l'intuition du génie, du créateur. Et c'est Napoléon qui l'incarne. Hugo est conscient d'un changement. Bien sûr, il espère dans la République. N'oubliez pas, en 1948, on a un président, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Et le 2 décembre 1951, ce Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État, instaurant le Second Empire. 8 jours après, Hugo est parti. Et c'est en exil qu'il va écrire Les Misérables, dans les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey. Les Misérables sont publiés à Bruxelles pendant le Second Empire. Autrement dit, l'investissement de Hugo contre la montée de cet esprit géométrique, calculateur, méthodique, matérialiste, mécanique, disons-le, est radical. Il y a été de sa propre personne. Et c'est là son plus beau message. Relisez Les Misérables.